7h18, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, les employés de la Banque Laurentienne ont accepté le contrat de travail, mais disons qu'on a évité le lock-out de justesse.
De justesse, parce qu'un dimanche soir, on obtient le résultat. Écoute, tout était prêt ce matin. S'il n'y avait pas entente, il y avait lock-out. Et la phrase clé dans tout ça, c'est « Le syndicat a décidé de ne faire aucune recommandation pour l'offre patronale ». Et ça, c'est très rare. Et pourquoi on a fait ça? C'est assez simple. D'un côté, si tu recommandes d'accepter l'offre finale, tu es en train de dire à tes employés, aux employés qui sont membres du syndicat, on baisse les bras. Et de l'autre côté, si tu recommandes de pas accepter l'offre, l'employeur, lui, depuis un an, la convention collective est échue, pourrait déclencher un lock-out le lendemain. Et là, tes employés pourraient te dire, hey, tu nous as recommandé d'aller en opposition avec l'offre patronale finale. Et une offre finale, ça le dit. Ça veut dire « brinkmanship », ça veut dire « stratégie de la mise en abîme ». Ça veut dire « je te mets au bord de l'abîme ». Ça veut dire que si jamais tu n'acceptes pas mon offre, il y a une conséquence. Et la seule façon pour que ça fonctionne, c'est que la personne qui fasse cette stratégie-là la mette en exécution. Et là, il y avait eu le 1er mars pour les REER qui était terminé, la semaine de relâche qui était terminée. Là, les actionnaires se disent maintenant « bon, Monsieur Desjardins, c'est à votre tour de ne vous laisser parler d'amour parce que là, les employés ont suivi. Vous avez un plan. Maintenant, livrez la marchandise parce que de 2016 à 2019, on s'est battu avec les employés pour faire adopter le plan. Maintenant qu'on a le feu vert, go! Et là, les actionnaires vont demander des résultats.
Mais je te donne un exemple, tu sais, puis je ne peux pas le valider parce que ça se passe à l'interne, mais vendredi ou samedi plutôt, je reçois un courriel de quelqu'un qui dit que les employés ont été convoqués, certains, là, au siège social à 14h, le vendredi dernier, plusieurs départements dans différentes salles. Puis là, on leur a dit que leur poste était coupé, qu'il n'y avait pas de date pour l'instant, on ne pouvait pas te donner une lettre de confirmation. On leur a dit que le syndicat était pour refuser l'offre. Tu comprends? Je sais que c'est de la stratégie, là, avant le vote comme tel. Mais tu sais, ça crée comme un climat qui n'est pas très sain, là, au sein d'une entreprise.
Ah, ça, c'est sûr. Mais tu sais, Anto et moi, cette banque-là, sa valeur marchande, elle est chez B2B Trust, elle est dans les filiales. Le président veut aller à Toronto le plus possible. Et le circuit de succursale, c'était déjà allé. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'amour. Et ce n'est pas ça la valeur de cette banque-là. Ce n'est pas le fait d'avoir pignon sur rue dans tous les quartiers. Tu sais, faut pas oublier que maintenant, là, quand tu y penses, là, tu veux signer un prêt hypothécaire? Appelle un conseiller hypothécaire, il va venir chez vous. Donc, pourquoi les banques ont encore des employés? Mais c'est historique. Parce que si t'es un client moderne, tu fais tes transactions en ligne, t'appelles ton courtier hypothécaire, tu ne vas jamais pratiquement à la banque, sauf quand t'as des grandes transactions à transiger puis de retirer de l'argent au guichet. Puis si t'es un peu plus jeune, mais t'as Apple Pay ou t'as ton service bancaire. Donc, l'institution physique de coin de rue, c'est pour des éléments très ponctuels qui sont rendus extrêmement rares maintenant pour la clientèle moderne. C'est les premiers à le faire, mais pas, ce ne sera pas les derniers. Là.
Non,
on va
sûr.
Aller vers là pour tout le monde.
Maintenant, on est en pleine saison de déclaration de revenus.
Ben oui.
Alors, est-ce qu'on l'a fait faire par quelqu'un, on l'a fait soi-même? Et si oui, si c'est quelqu'un qui est un professionnel, ça coûte combien?
Oui, bien sûr. Là, Paul, parlons juste premièrement. Là. Pour qui je pense que c'est un no-brainer de le faire tout seul? Vous êtes seul, pas d'enfant, un seul employeur, un T4, quelques dons de cotisation REER. Là. Si vous avez un diplôme de secondaire 5, puis vous achetez un logiciel style Impôt Expert ou Turbo Impôt, peu importe, là. Puis qu'on vous prend par la main, puis qu'on vous demande des questions, oui, non, oui, non, oui, non, enter, voici votre déclaration, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Pour se réapproprier sa déclaration, pour comprendre comment ça fonctionne, à moins que vous soyez vraiment, vraiment, au niveau fonctionnel, vous avez de la difficulté à lire, là, vous allez être capable. Mais pour le reste, là, vous tombez dans le travail autonome. Tu sais, les travailleurs autonomes, ils sont souvent choqués parce que les comptables leur chargent cher. Mais tu sais, travail autonome, il y a un frais de base plus, évidemment. Tu as un état des résultats à produire, là. Tu as des revenus puis des dépenses. Après ça, comme travail autonome, si tu veux réduire ta facture, pose-toi la question. Est-ce que tu as compilé tes fichiers, puis tes dépenses, puis tes revenus dans un fichier Excel, ou tu garages tout ça d'une boîte à chaussures, puis tu vas le porter à ton comptable en disant « Je veux que ça me coûte 50$, ça arrivera pas. » Deuxième point qui va augmenter aussi votre facture, si vous avez un immeuble à revenus, si vous l'habitez, c'est encore pire, parce que là, il y a une portion qui est évidemment pour le propriétaire, il y a une portion locative. Il peut y avoir un changement d'usage, c'est-à-dire que pendant l'année, vous l'habitez plus, ça complexifie la patente. S'il y a aussi des dépenses, il y en a qui sont capitalisables, donc capitalisables, ça prend du temps. Et pour ceux qui sont séparés, c'est le pire, parce que là, t'as les frais de garde. Bon, qui va avoir le relevé de la garderie? Qui va avoir le relevé du service de garde à l'école? Qui a payé pour les enfants? Et contrairement à ce que les parents pensent au niveau fiscal, c'est assez simple. Il est marqué le nom du parent sur le feuillet. Fait que si toute ta vie, t'as laissé ton ex-conjoint, ton ex-conjointe gérer ça, puis tu y payais, c'est bien de valeur, mais c'est cette personne-là que son nom est sous le contrat qui va recevoir l'avantage fiscal. Et pour éviter la surprise... Beaucoup de gens sont surpris à la fin de combien ils reçoivent, combien ils payent. Ben, oubliez pas que la déclaration de revenus, c'est un remboursement ou un paiement d'impôts. Donc, si vous en avez payé beaucoup, vous pouvez en recevoir, mais si vous n'avez pas payé, vous en recevrez pas. Donc, le salarié, à moins que tu aies une grosse cotisation REER personnelle, il est peu probable que tu aies un gros remboursement d'impôts, à moins d'avoir une situation extrêmement particulière. Et pour le travailleur autonome, ça, c'est les dangereux. Parce que eux, Paul, tu sais, ceux qui c'est leur première année comme travailleur autonome, tu sais, ils gagnent 35 000, 40 000, puis là, tout d'un coup, ils se rendent compte à la fin de l'année que, il fallait qu'ils prélèvent l'impôt eux-mêmes. Ben, eux pourront prendre une entente de paiement avec le gouvernement si jamais ils n'ont pas l'argent. C'est 12 mois maximum pour payer, mais il y a des pénalités et des intérêts.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut. 7h24.